suis Agnès, professeure de yoga, biologiste et docteur en neurosciences, et je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast « Ta blessure, ta chance ». Que tu sois un sportif assidu qui a déjà connu la frustration des douleurs chroniques ou de la blessure, ou bien que tu débutes le sport et que tu t'interroges sur la prévention des douleurs, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je t'accompagne dans la gestion et la prévention des douleurs récurrentes et des blessures sportives grâce aux outils du yoga, des neurosciences et de la physiologie du sportif. Moi-même passionnée de sport, j'ai connu la frustration des blessures à répétition avant de découvrir les différents outils du yoga. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser mes compétences et mon expérience pour aider les sportifs qui font face à des douleurs récurrentes ou à des blessures à s'épanouir dans leur activité sportive. Kama Sutra. Non, je ne vous parle pas de Kama Sutra dans cet épisode. Pour ceux qui ont mal lu ou ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour relire le titre de l'épisode, il s'agit bien de Karma Sutra. Et je suis ravie de vous accueillir autour d'un livre aujourd'hui. Il s'agit du livre Karma Sutra de Steve. Un livre qui se lit très rapidement et qui n'a pas réellement pour vocation d'être un grand essai littéraire, mais qui soulève de manière ciblée plusieurs règles qui promettent de transformer son histoire. En tout cas, c'est la promesse du livre, transforme-toi et tu transformeras ton histoire. Et l'auteur est Steve, point. Steve, pas comme juste le blanc, c'est vraiment juste Steve. Bref, dans cet épisode, j'ai décidé de sélectionner 6 sutras parmi les 49, donc les 49 citations, que Steve liste dans son ouvrage et qui me semblent judicieux à appliquer pour éviter l'épuisement, que ce soit lié à la pratique sportive, mais plus largement à un rythme de vie qui ne nous permet pas de récupérer. Avant cela, mon premier sutra sera... À ma newsletter, tu t'abonneras si tu es nouveau ou nouvelle ici. Tu recevras ainsi une petite dose de vitamine tous les 15 jours et le lien est dans les commentaires, il suffit de mettre sur pause. Et maintenant, c'est parti pour un épisode express. On va plutôt être sur un ristretto que sur un café au lait allongé avec chantilly et petit copeaux de chocolat. Le premier sutra que je veux vous livrer est le suivant. C'est d'ailleurs le premier sutra du livre. Ce que tu ne fais pas, a autant d'impact sur ton futur que ce que tu fais. Je trouve qu'il y a plusieurs manières d'interpréter ce sutra. La première, c'est qu'il faut se concentrer pour détecter ce qui est inutile, voire nocif dans nos vies pour les éliminer. C'est un exemple que je donne souvent, mais j'ai longtemps été accro au coca. J'en buvais plusieurs canettes par jour et j'ai un peu honte quand même. Prendre la décision de ne plus en boire a un impact sur mon futur, j'en suis sûre. En tout cas sur ma santé, aussi bien physique que mentale. Et parfois, quand on est fatigué, on se demande « qu'est-ce que je peux rajouter à ma vie pour me sentir plus en forme ?» Et c'est comme ça que ma consommation de coca a commencé pour me donner un coup de boost caféiné quand j'étais fatiguée. C'est vraiment un exemple à ne pas suivre. Donc, chercher à rajouter, c'est loin d'être idiot. Et bien sûr que rajouter des activités ressourçantes est un atout pour éviter de s'épuiser, mais il y a un mais. Avant de rajouter, il faut penser à enlever. Alors ça rappelle la fameuse citation d'Antoine de Saint-Exupéry, « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Deuxième manière d'interpréter ce sutra, ce que tu ne fais pas pour prendre soin de toi aura un impact sur le futur. La récupération, par exemple, que tu ne fais pas aura un impact sur ton futur. Peut-être que de ton côté, ce sutra résonnera différemment et c'est ok, hein. J'aime ce sutra parce que justement, il nous pousse à faire le ménage dans nos habitudes incompatibles avec un quotidien dans lequel on évite de s'épuiser, pour ensuite réfléchir à ce que l'on peut incorporer pour être en forme à long terme. Donc c'est à la fois une ode au minimalisme et à la prise du pouvoir. Donc j'enlève ce qui ne me convient pas, même si ça déplaît à certains, pour infuser ce qui me ressource. Passons au deuxième sutra, qui est aussi d'ailleurs le deuxième sutra du livre. La chose la plus importante, c'est de garder la chose la plus importante comme la chose la plus importante. Et tu l'auras peut-être déjà compris, la chose la plus importante, c'est toi. C'est ton énergie, ta santé physique et mentale. Tu ne peux pas espérer aider les autres si tu es vide comme une coquille de noix après le passage d'un écureuil. Et j'ai vérifié, l'écureuil préfère les glands, mais il aime aussi les noix. Et d'ailleurs, Steve reprend une citation dans son livre. Tant que nous ne sommes pas en amour avec nous-mêmes, nous sommes une fréquentation dangereuse pour les autres, puisque nous cherchons sans cesse la compensation à travers l'autre. Donc, soyez égoïste, c'est bon pour les autres. Et attention, égoïste ne signifie pas égocentrique, notion qui fait référence à une attitude narcissique. Ce sutra nous invite, et là encore je cite, à savoir s'accorder des périodes rien qu'à soi pour recharger les batteries, se construire, se transformer, c'est-à-dire à être égoïste. Et ce n'est pas très politiquement correct, mais c'est 100% vrai. C'est l'histoire du masque à oxygène, que tu connais sûrement. Si en cas de dépressurisation, tu ne mets pas d'abord ton masque à oxygène, tu ne pourras aider personne. Le troisième sutra que j'ai envie de vous donner ici est lié à ce deuxième sutra. Ceux qui donnent doivent apprendre à poser des limites, car parfois, ceux qui prennent n'ont pas de limites. Alors j'insiste bien sûr sur le parfois, car le but n'est pas de véhiculer l'idée que toutes les personnes qui vous entourent et à qui vous donnez sont des sangsues qui absorbent votre énergie. Pas du tout, hein, et au contraire. On sait même que donner amène davantage de joie à la personne qui donne qu'à celle qui reçoit. Il y a eu des études à ce sujet. Mais les limites sont entre tes mains. Sans limite, le risque est de s'épuiser. Mais alors, quelles limites ? Eh bien, à toi de les définir. Tu peux même prendre un papier et écrire toutes les choses qui drainent ton énergie. Et si tu en repères que tu peux éliminer, alors on en revient au sutra 1, élimine-les. Si ce n'est pas possible, alors définis clairement tes limites vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de toi-même. Par exemple, il peut s'agir d'une heure au-delà de laquelle tu ne consultes plus tes mails, d'un nombre d'heures de travail dans la semaine, ou d'un nombre maximum de séances de sport par semaine, car tu sais qu'au-delà, pour le moment, ton corps n'aura pas la possibilité de récupérer efficacement. Maintenant, place au quatrième sutra. Quand on attend que l'autre change, on est dépendant. Je renonce à le faire changer, je m'organise autrement. Et je pense qu'on peut élargir, notamment dans le cadre du yoga, ce sutra à une situation qu'on ne peut pas contrôler. Quand on attend qu'une situation hors de notre contrôle change, on est dépendant. Je renonce à la faire changer, je m'organise autrement. C'est la reformulation de la règle de vie yogique Santosha qui peut se traduire en partie par l'acceptation de ce qu'on ne contrôle pas. Si tu fais de la voile, tu sais que tu ne choisis pas d'où vient le vent, si tu n'en fais pas aussi, hein, d'ailleurs, je pense. Et si tu veux avancer face au vent, tu ne peux pas te mettre complètement face au vent, sinon tu n'avances plus. Tu peux par contre te servir du vent pour faire des bords et remonter au vent. La trajectoire sera plus longue et moins droite que si tu veux avancer en ligne droite face au vent. Mais au moins, tu avanceras. Le cinquième sutra fait écho à celui-ci. Traite les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et tu les aideras à devenir ce qu'ils devraient être. Alors, quel est le rapport avec l'épuisement ? Eh bien, les rapports conflictuels avec les autres sont épuisants. Alors, qu'en croyant en la capacité des autres, on les amène à devenir meilleurs. Et c'est typiquement l'effet Pygmalion ou effet Rosenthal et Jacobson. Et à ce sujet, voici une petite histoire, l'histoire d'Edison. Donc je prends ici quelques instants pour vous lire un petit passage du livre. Je vais vous raconter une histoire vraie. Un jour, un petit garçon rentre de l'école et donne à sa mère une lettre rédigée par son professeur. Il ne sait pas ce qu'elle contient. Sa mère la lit et se met à pleurer. Le garçon demande pourquoi. « C'est extraordinaire. Cette lettre est vraiment incroyable. Je vais te la lire. Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui. Et nous n'avons pas d'assez bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. » Le petit reste bouche bée. Sa mère le prend dans ses bras. « C'est fantastique. Sois rassuré, mon fils. Tu vas rester ici et je t'aiderai dans ton apprentissage, lui dit-elle. » Le gosse grandit, fait son chemin. Il possède déjà un vrai petit laboratoire de chimie dans le sous-sol de la maison de ses parents. Devenu adulte, il invente deux ou trois petits trucs. L'ampoule électrique, le phonographe, le télégraphe, la caméra, etc. Ce gamin, c'est Thomas Edison. Après le décès de sa mère, en triant ses affaires, il retrouve la fameuse lettre de l'école. « Votre fils est nul, il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. » Thomas Edison pleure pendant des heures et écrit dans son journal. Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Donc voilà pour ce petit passage qui illustre l'effet Pygmalion. Et je ne dis pas que faire une confiance aveugle et encourager les autres est la solution ultime pour moins s'épuiser, du moins dans le rapport aux autres, mais je crois que cela mérite quand même réflexion. Et pour finir, voici le sixième et dernier sutra que j'avais envie de vous partager. La direction est plus importante que la vitesse. C'est tellement vrai. Alors, je ne sais plus où j'ai entendu cette métaphore, mais entre deux personnes qui courent dans la mauvaise direction, qui est celui qui gagne? Eh bien, celui qui gagne, c'est celui qui s'arrête le premier. Donc, préserve ton énergie en vérifiant régulièrement que la direction que tu empruntes est la bonne. C'est valable dans le domaine sportif, mais plus largement dans tous les domaines dans lesquels on investit son énergie. Cela ne signifie en aucun cas que l'immobilité est la solution ou que la ligne droite, c'est ce qu'il faut absolument viser, hein, je viens d'en parler, mais qu'il ne sert à rien de foncer si c'est pour foncer dans la mauvaise direction. Alors je sais que ça paraît évident, mais je sais aussi que quand on est pris dans le rythme du quotidien, on a parfois, voire souvent, le nez dans le guidon et on n'a pas le temps d'observer le paysage pour voir réellement où on va. Et j'ai envie de citer un autre sutra bonus plein de bon sens. Faire plus de choses qui ne fonctionnent pas ne produit qu'une chose, plus de dysfonctionnement. En soi, ce n'est pas grave, la vie n'est pas linéaire et tout le monde fait des erreurs, mais cela est important à rappeler dans des périodes de fatigue, par exemple. Parfois, on peut mettre sur pause et avec ou sans Mars, eh bien, ça repart. Des pratiques comme la méditation, la respiration, le yin yoga sont là pour ça. Ralentir, décanter, arrêter d'accumuler les couches et les couches de pensées et d'émotions. Et sans être experte en plomberie, je sais que parfois, en fonction de la vitesse d'écoulement de l'évier, il faut ralentir le débit d'eau du robinet si on ne veut pas que ça déborde. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des petits travaux de plomberie, eh bien, ne m'appelez pas. Par contre, si vous voulez faire du yin yoga, de la méditation, etc. avec moi, je vous attends dans mon studio en ligne. C'est là-dessus, sur une histoire de plomberie et de yin yoga, que je vais clôturer l'épisode, mais pas avant de vous avoir récapitulé les 6 karma sutras que j'ai évoqués aujourd'hui. Petit 1. Ce que tu ne fais pas a autant d'impact sur ton futur que ce que tu fais. Petit 2. La chose la plus importante, c'est de garder la chose la plus importante comme la chose la plus importante. Petit 3. Ceux qui donnent doivent apprendre à poser des limites car parfois, ceux qui prennent n'ont pas de limites. Petit 4. Quand on attend que l'autre change, on est dépendant. Je renonce à le faire changer. Je m'organise autrement. Petit 5. Traite les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et tu les aideras à devenir ce qu'ils devraient être. Et petit 6. La direction est plus importante que la vitesse. Le 50e et dernier Karma Sutra du livre est un sutra libre, donc sens-toi libre de créer ton propre sutra, peut-être issu des sutras dont je t'ai parlé aujourd'hui. Et n'hésite pas à me le partager, ça me ferait super plaisir et je suis sûre que cela m'inspirera. Je te remercie pour ton écoute. Sache qu'à chaque fois que tu écoutes un épisode, réagis à une publication ou encore achètes un produit, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, que ce soit dans le domaine du yoga ou dans un autre domaine, tu contribues à faire avancer une personne dans ses projets, à vivre et à s'épanouir. Et sur ces pensées shabadabadesques, mais 100% vraies, je te laisse et je te donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao, ciao !